Alors Michel, on se trouve dans les derniers moments de ce week-end festival généalogisé. Et dès le premier soir, lorsqu'on était au lac de Dunkerque, alors qu'on avait traversé ce Nord-Pas-de-Calais, tu en es venu à parler du continent invisible. Tu te référais là, et après on a eu une discussion samedi soir avec Joël Hubon, par exemple. Tu te référais là à le Clésio. Alors, qu'entends-tu par continent invisible, sachant que nous avons déjà fait un entretien sur la communauté invisible?
Alors, il se trouve que j'ai trouvé dans un relais à Paris, la gare de Lyon, le dernier livre de L'Occlésio. Je l'ai vu annoncer dans un journal, le dernier de 2006, qui s'appelle Raga, approche du continent invisible. Alors, évidemment, bon, avec un titre pareil, je l'ai tout de suite acheté. Je me dis, là, c'est un essai de L'Occlésio. Raga, je ne connaissais pas Raga. Bon, Raga, je pensais à l'Inde ou Raga, mais ce n'est pas ça du tout. C'est une île, une toute petite île du Pacifique. Et il se trouve que le Clésio, bon, que je lis, j'ai pas tout lu le Clésio, mais j'ai lu les livres, l'ensemble qui concerne ces voyages. Et ce ne sont pas des essais ou des récits, c'est entre l'essai et le récit. Et là, il raconte son expérience sur la planète. C'est-à-dire, Haï, le Mexique, un autre, c'était le Maghreb, il est vécu au Maroc, et Raga, le Pacifique. Et là, on s'aperçoit que l'Occlésio, ce n'est pas du tout ce qu'on imagine. L'Occlésio ne se revendique absolument pas comme écrivain de nouvelle écriture. C'est un véritable voyageur qui raconte l'expérience, son expérience sur la planète. Et là, dans le dernier, il fait le bilan de la catastrophe, on peut dire mondiale, occasionnée par la saloperie de l'Occident. La catastrophe coloniale. En Amérique du Sud, on sait. Dans le Moyen-Orient, on sait. Et dans le Pacifique, on sait vraiment moins. Et dans le Pacifique, là, il fait un bilan terrible. Puisque le Pacifique, ce sont plein de petites îles, et qu'on les a négligées, et on a inventé évidemment les paradis touristiques de Polynésie. Alors, ce n'est pas du tout un paradis. Ce sont des gens qui ont été tout simplement, depuis le 20e siècle, mis en esclavage. Sans parler évidemment des expériences françaises, coloniales, Nuparoa, et donc expérience nucléaire. Et la France en particulier, qui est sans doute le premier pays mondial de l'Occident qui a autant d'îles dispersées sur l'ensemble donc des mers. Ben, c'est intéressant quand même, il ne faut pas oublier ça. Donc L'Occlésio a une hyper-conscience du mal que le blanc occidental et le français en particulier a fait dans toutes ces îles en apportant, soi-disant, sa civilisation. Et là, il est vraiment sévère. Il est même très sévère contre Fechner et Gauguin, même Gauguin, hein, qui a profité aussi des Valéniers, etc. Donc, c'est un livre raide. Et il dit, mais ce que j'ai appris là, c'est que ces populations qui ont été disséminées, qui ont été certaines exterminées, colonisées, esclavagisées, ne sont pas pessimistes. Elles ont réussi, dans le nomadisme obligatoire de leur situation d'ouvrier ou de demi-esclave, de penser qu'il était possible aujourd'hui, malgré tout, de se sortir du colonialisme et de continuer à essayer d'être de véritables êtres humains. Voilà, c'est le message là de l'Occlésio. Donc, simplement un être humain sur la Terre. Et c'est pour ça qu'il appelle cela le continent invisible, le continent des êtres humains qui marchent pas à pas sur la Terre sans vouloir se venger et sans vouloir refaire encore une guerre cette fois contre les Occidentaux. Simplement en se méfiant vraiment des Occidentaux qui, même parfois malgré eux, sont là pour les créoliser. donc pour les soumettre, encore une fois, par la langue. Et en effet, là, il y a un chapitre intéressant où il parle de la créolisation, c'est-à-dire de la domination, en fait, de la langue espagnole ou de la langue française, dans ce cas, la langue française, sur la langue autochtone. Et qu'à l'heure actuelle, maintenant, il y a un réveil des langues autochtones qui ne veulent plus se faire créoliser ou qui le prennent dans le sens inverse, c'est-à-dire où ce serait l'ancienne langue qui ne serait plus dominée par le français. Alors là, bien sûr, tu imagines bien les énormes conséquences de tout cela. Ça veut dire aussi réveil des anciennes traditions, réveil des anciens jeux, réveil des coutumes populaires, sans rentrer dans le communautarisme, pas du tout, en utilisant absolument ce qu'a pu apporter l'Occident, et en le retournant. Eh bien, là, le Jésus-Christ, ça se passe maintenant sur toute la Terre, sur tout le quart-monde, on peut dire, c'est en train de se passer. Et c'est en cela, je dis que l'Ecclésio est très intéressant, parce que c'est un témoignage. Donc moi, je n'ai jamais pris l'Ecclésio pour répondre à ta question, je ne l'ai jamais pris pour un écrivain qui renouvellerait l'écriture, absolument pas, mais comme un témoin actuel, très très conscient de ce qui se passe, et qui a vécu ça, bien entendu. Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, dans le Arras, c'est la petite, voilà, c'est d'autant plus intéressant que, on peut dire, le bouquiniste de livres anciens d'Arras, sa boutique s'appelle Le Continent Mystérieux. Et là, j'ai trouvé le livre que je n'avais pas, d'un autre voyageur. Je ne dis pas, c'est peut-être le Ecclésio des années 30, et il s'appelle Alain Gerbeau, L'Évangile du Soleil. Et il fait la carte, il y a la carte, 1930, des itinéraires d'Alain Gerbeau sur la planète. Alain Gerbeau, là, donc, va à la recherche donc, de ce paradis qui n'est pas un paradis. Mais Gerbeau n'était pas illusionniste. Hein. Mais c'est vrai que dans les années 30, il y avait encore peut-être, je ne dis pas un espoir, hein, parce que c'est pas... Et bon, ce serait intéressant, et je suis en train justement de faire ce passage entre l'Ecclésio Gerbeau, et de Gerbeau, je remonte à un autre écrivain, qui lui est un écrivain, et qui a quand même pas mal bourlingué sur la Terre, puisqu'il a fait son fameux livre, Bourlingué, et il s'appelle Blaise Andrars. Hein, on parle toujours dans les avant-gardes de tout le monde, même d'Apollinaire, Blaise Andrars, on a l'impression qu'on n'en parle plus du tout. Alors que Blaise Andrars a été un voyageur invraisemblable et qui s'intéressait absolument à toutes les formes de la vie, des cuisines, des traditions, etc. sur la Terre entière. Alors là, donc là, c'est là, le continent invisible, c'est bien ça. C'est ce continent qui, là, est en train d'apparaître dans la brume, malgré l'industrialisation planétaire, malgré les nouvelles technologies qui sont aussi des nouveaux moyens d'asservissement, si on utilise pour cela, évidemment. Donc, peut-être, on peut regarder ce titre. L'évangile du soleil est toujours possible si l'on prend soin de la Terre, c'est-à-dire ce que vous pourriez appeler déjà, pas encore dans ce concept-là, mais ce qu'il appelait déjà quand même l'écologie globale, c'est-à-dire prendre soin de qu'est-ce qu'on plante, où on le plante, comment on le plante, et quelle pluie va tomber dessus. Bien sûr que Fourier ne pouvait pas imaginer qu'il y aurait des pluies d'acide qui tomberaient autour de la Terre, qui tomberaient n'importe où, et qu'il y aurait surtout les pluies de Tchernobyl. Il ne pouvait pas, absolument pas imaginer une chose pareille. Et aujourd'hui, nous, on doit tenir compte de cela. C'est qu'on a été capable, rien d'engendrer, ces fameuses pluies polluantes sur l'ensemble de la Terre. Il ne pouvait pas imaginer non plus qu'on arriverait à une telle imbécilité qu'on appliquerait à peu près partout, mais ça, les Allemands, les Belges, les Français, etc., la déforestation. Alors on dit que c'est les Noirs. Non, c'est nous. C'est nous qui avons besoin de ces bois, y compris Vietnam, y compris l'Indonésie. C'est absolument inimaginable ce qui est en train de se passer. Et c'est extrêmement dangereux, puisqu'on risque de toute façon un réchauffement et un assèchement et une désertification accélérée. Donc là, aujourd'hui, je pense qu'on est dans un moment, et j'étais surpris aussi de la dureté de ce que dit Silo Clésio. Et en même temps, c'est quand même très intéressant, ce continent invisible, puisque le continent invisible aussi, nous avons quand même deux individus qui aujourd'hui en France en parlent d'une autre manière. Hein. Il est possible de pouvoir voir réapparaître ce continent. Eh bien, d'un côté, c'est José Bové, qui sort quand même, on oublie de le dire quand même assez souvent, il sort quand même, il l'a dit lui-même, à l'âge de 20 ans, de Gandhi, de Schwarzschild, hein, après de Mandela, qui ça, c'est pas de n'importe où, hein. José Bové, c'est ça sa base fondamentale. Un petit peu de Proudhon, bien entendu, Proudhon, parce qu'il faut le reconnaître. Mais en tout cas, qu'il est absolument nécessaire aujourd'hui d'arriver à vivre sur une terre qui peut encore nous nourrir. Donc la lutte de Bové et tous ses amis, c'est bien cela. Et ça rejoint bien évidemment, ça recroise aujourd'hui un autre personnage qui vient d'apparaître en France, c'est quelqu'un de ce pays. Hein. Ce personnage, il s'appelle quand même...
Schlosser-Dick.
Un français, Hulot. Hulot, eh oui, Nicolas Hulot. Nicolas vient de publier, et je l'ai acheté aussi en même temps que Clésio, le pacte écologique. Et il demande à chaque parti de mettre dans son programme le pacte écologique, et quel que soit le parti qui soit au pouvoir, gauche ou droite, qu'il y ait un vice-premier ministre responsable de l'environnement et de l'écologie. Pas simplement un petit ministre comme ça, bon, qui s'occupe du 3%, hein, mais que là, ça devient absolument fondamental. Alors, ça, c'est quand même... on arrive donc à un moment clé, c'est que là, il y a vraiment un réveil. Il y a un réveil, et on pourrait dire que ce réveil n'est pas seulement un réveil ici, un réveil, disons, d'écologie environnementale agricole, mais il faudrait le pousser beaucoup plus loin. Hulot, comme Bové, parle de ce réveil absolument nécessaire, cette fois, dans le domaine environnemental, agricole et social. Et moi, je dis aujourd'hui, il s'agit d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire l'écologie de l'esprit. C'est-à-dire ici, c'est un réveil nécessaire, complet. Donc, on doit absolument, d'une manière totalement inséparable, considérer aussi leur réveil des poétiques, ce qu'on pourrait appeler des poétiques de l'art, et on peut reprendre le terme de Pidou, de l'art qui deviendrait l'instrument de la vie et qui ne deviendrait pas simplement l'instrument de l'autosatisfaction, de la reconnaissance et finalement du pouvoir. Alors, est-ce que tu as d'autres questions à me poser ?
Alors, simplement une deuxième par rapport à ce que tu disais. Premièrement, je pensais à un moment donné, tu disais justement, c'est pas l'histoire d'abandon de ce qui a lieu, mais de la reprise, de forme d'inversion. Je pensais à Jean Rouch. Mmh. Effectivement, quand il voit certains rites d'exorcisme de ce qui est l'esprit par la reprise. Hein, en Afrique, donc je pensais à ça, et la question qui me venait, effectivement, sur ce continent invisible, puisque tu parlais des voyages, donc en même temps, on aura affaire à une nouvelle forme de géographie, et nouveau système d'orientation, hein, pour reprendre les problèmes de cartographie. On sait parfaitement que la cartographie, hein, elle a été faite, notamment dans l'Occident chrétien, à partir de l'orientation divine, après elle est passée, très étrangement, on oublie toujours cette période, la cartographie orientée vers les richesses, pour en venir à l'ultra-rationalisme. Et justement, qu'est-ce que serait, tu parlais d'une nouvelle poétique, retrouver aussi des langages qui seraient en nous, oubliés, etc. Quels seraient les nouveaux critères de cette géographie, de ces nouveaux trajets, et qu'est-ce que cela implique au niveau... ce que serait cette communauté dont nous avons parlé le dernier coup, cette communauté invisible, là en quelques mots.
Oui, absolument. Donc on a bien les signes, les signes, de toute façon, sont là. D'ailleurs, on pourrait finir là-dessus, genre sur les. Moi, je dirais ici les signes esthétiques dans le domaine de l'art. On a bien les signes. Eh bien, les signes esthétiques. Et je reprends encore cette fois Robert Filliou, qui avait bien saisi cela. Il ne s'agit pas de s'orienter vers le talent, c'est-à-dire être bon des artistes du son, de la voix, du corps, gesticulation, du mot, brillantissime, technicien, d'une rhétorique exceptionnelle, absolument pas. Il s'agit de tout à fait autre chose. Et Filliou redonne à ce terme qui a été, on peut dire, vu péjorativement, redonner la voix au génie, c'est redonner la voix à l'imagination. Alors évidemment, bon là, alors moi je dirais à la transformation, et tu parlais de rituels, il ne s'agit pas bien sûr de répéter les rituels anciens, il s'agit bien de, et c'est urgent, de saisir l'esprit de ces rituels, donc de les manger, et nous d'inventer, donc nos rituels d'aujourd'hui, dignes d'aujourd'hui, qui ne sont absolument pas des ersatz d'anciens rituels dans lesquels nous ne sommes plus. Mais il s'agit bien ici de l'esprit de ce rituel. Et on voit en effet apparaître un peu partout, alors disons en France, des individus, en France, on peut voir que bon, ma génération, donc, à peu près, au grand maximum d'une dizaine, hein, mais c'est en train, en effet, de se redévelopper. On le voit bien. On voit bien qu'il s'agit de cela. Alors là, on parlait de Serge Peille, Julien Blaine, c'est très différent. Bon, Jean Monod, c'est encore autre chose. Joël Hubeau, c'est tout à fait différent. Bon, Coyote, c'est encore autre chose, mais ça se recoince. Parce qu'on a bien pris conscience de ça, justement. De ça. Et il ne s'agit surtout pas, donc, de refaire hein, des rituels anciens. Il s'agit bien d'une conscience actuelle. Et dans cette conscience, on peut dire que là, c'est vraiment le... Je ne sais pas comment on peut dire ça, c'est difficile. Oui, ça devient une sorte de parole, mais que cette parole se manifeste par le son, par la voix, par la gesticulation, par le texte, par le dessin. Et c'est une parole consciente, moi je ne dirais pas plus, hein. L'art c'est peut-être ça, hein, qui déclenche à nouveau des circuits dans ce cerveau, qu'on ne sait même pas ce que c'est, hein, ce cerveau, cet esprit-cerveau. C'est-à-dire qu'il décoince les circuits et qu'il les remet en circulation. Donc, ils, à nouveau, vont fonctionner dans toutes les directions. Et ça veut dire quoi, cela? Ben, on peut répondre là tout de suite. Ça veut dire vivre la pluralité, vivre la diversité, vivre les milliers de voix qui sont en nous. Donc, car nous sommes tous des carrefours. Et là, bien sûr, si là, c'est ça, Là, redevient vraiment une chose publique, res publica, véritablement politique et sociale, puisqu'il s'agit bien de développer, pas simplement la richesse donc, terrestre, agricole, ou industrielle, si on veut, mais la richesse humaine. Et c'est ça la richesse humaine, la richesse complète de l'être humain. Voilà, l'art c'est cela. Si l'art n'est pas cela, l'art c'est simplement décoratif ou l'instrument de son pouvoir. C'est tout. Je pense qu'il n'y a pas d'autre. Et on peut faire d'ailleurs le bilan. Hein. Quand on regarde les anthropologues, quels qu'ils soient, quand ils parlent d'Afrique, ils parlent des Amérindiens, eh bien, c'est bien de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'arriver à vivre dans cet ensemble, hein, constitué, cet ensemble cosmique, on peut dire, dont nous sommes partie prenante. Hein. Donc, nous sommes les voyageurs. Et là, pour répondre finalement à ta question, le continent invisible reste invisible puisqu'il est constitué de la somme des êtres humains conscients qui permettent à ce continent invisible de ne pas disparaître, d'être un continent invisible. C'est-à-dire d'être, donc, on pourrait dire, un intercontinent qui est constitué par les intersections de tous ces corps-esprits qui marchent que le continent ne sombre pas. Voilà.
Je te remercie. On découvre aussi cette pratique. Tu parlais un rite à travers ce que tu as fait toi-même, par exemple samedi soir à Généalogie Z, où tu as fait un pow-wow, comme tu l'as dit, à Arras, à l'hôtel de Guine. Et on découvrira aussi le baby de Joël Hugo, qui est aussi une autre forme, bien sûr, rituelle. Et donc, on pourra mettre en correspondance avec cet entretien. Je te remercie.